Alors, je commence par vous dire que nous avons un cours aujourd'hui sur la différenciation, c'est-à-dire notamment sur les rapports entre les individus et les supérieurs dans les communautés. Et c'est évidemment d'actualité, comme vous savez. Alors, nous allons essayer de faire de notre mieux pour poser quelques bases de réflexion à tout ça. Et il y a ici un petit volume, La vie consacrée, dans lequel Madame Streuf et Noël Haussmann, sœur Noël Haussmann, ont publié chacune plusieurs articles qui concernent des sujets touchant la question de l'obéissance, de la différenciation et autres. La vie consacrée, lumière et obscurité, préface de Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Alors nous pouvons le vendre au prix normal de 12 euros, mais il n'y a ici que 4 exemplaires. Mais il y en a plein dans un bureau à côté, mais je n'y ai pas accès. Donc une prochaine fois, peut-être qu'on pourra essayer d'en avoir. Il y a aussi bien sûr des articles de la Nouvelle Revue Théologique où Madame Streuf a publié, et parfois nous avons publié ensemble. Donc là aussi, on peut espérer en avoir dans le bureau de la NERT. Alors il y a un autre numéro de Communio dont je vous parlerai à la fin, qui c'est un article de moi sur le magistère de l'Église catholique et les déviances doctrinales. C'est aussi quelque chose qui a un peu rapport avec ceci. Donc c'est une étude sur les enquêtes que la Congrégation pour la doctrine de la foi fait par rapport à certains théologiens déviants. Et voilà, je me suis un petit peu intéressé à cette question et je trouve que la procédure gagnerait à suivre un peu les principes que nous allons vous exposer. Vous avez reçu votre feuille de route. Cette fois-ci, c'est moi qui commence en vous proposant une réflexion sur l'anthropologie personnaliste et communautaire et ensuite quelques indications sur l'obéissance dans une communauté et en particulier dans une communauté jésuite. Mais je vais parler à partir des règles et des constitutions. Donc, comme tout le monde sait, les règles sont toujours très belles. Hein. Alors, dans la pratique, on fait ce qu'on peut avec ces règles et les hommes surtout qui doivent y obéir. Hein. Alors, je commence avec Balthazar, une anthropologie donc balthazarienne. Peut-on donner une définition de l'être humain? Eh bien, vous savez que les philosophes antiques ont donné cette définition très simple, et c'est un bon point de départ. L'homme est un être, est un animal raisonnable. Animal raisonnable. Il y a deux termes qui se tempèrent, qui sont dans une espèce de tension. Boèce, un philosophe, et saint Thomas d'Aquin, à sa suite, définissent la personne humaine de manière déjà plus précise. Il y a 4 termes, c'est sur votre feuille de route. La personne humaine est une substance individuelle de nature rationnelle. Vous voyez qu'il y a 4 termes et qu'au fond, on développe animal en disant substance et nature hein, ou individuel et rationnel, on développe la question de raisonnable. Balthazar trouve que ces définitions sont très statiques et peu... disons descriptive, et lui propose plutôt une définition avec 3 polarités. Vous avez ces 3 polarités dans le petit cercle là que j'ai fait, corps, esprit, homme-femme, individu, communauté. Alors un être humain, c'est quelqu'un qui se trouve toujours situé par rapport à chacune de ces 3 polarités. Donc c'est quelqu'un qui a un corps et un esprit, et le corps et l'esprit sont en tension. Il n'est ni que corps, ni uniquement esprit, mais c'est un composé de ces deux-là. Et voilà, nous sommes toujours occupés à chercher notre équilibre. Quel que soit l'âge de notre vie, c'est évidemment très différent si on est un enfant, si on est un adulte, si on est un vieillard, tout ça évolue. On est aussi toujours homme ou femme. L'un des deux, on ne choisit pas, mais on doit se situer avec ce qu'on est et avec ce que l'autre est. Et aussi, c'est très intéressant, et c'est surtout pour cela que je prends cette anthropologie ici, l'être humain est toujours un individu dans un groupe. Un individu dans un groupe. Alors j'ai indiqué ici individu-communauté, parce que l'individu, grâce au groupe, devient une personne, et quand le groupe n'est composé que de vraies personnes, alors c'est une communauté, ce n'est pas seulement un groupe. Donc voilà, c'est ça que je voudrais bien développer. On peut aussi constater que ces trois polarités jouent l'une sur l'autre. Elles jouent l'une sur l'autre. La première communauté, c'est le couple. Hommes et femmes, donc. Et hommes et femmes, c'est une communauté de corps et d'esprit. Et ainsi de suite. On peut toujours faire jouer les unes sur les autres ces tensions polaires. La polarité, c'est une sorte d'opposition qui n'est pas antinomique. Donc ce n'est pas le corps qui est opposé à l'esprit, ou l'homme qui est opposé à la femme, ou l'individu qui est opposé à la communauté, mais il y a une tension entre les deux. C'est ça la richesse du concept de polarité. La personne, donc, qui n'est pas reprise ici, puisque j'ai indiqué individu-communauté, elle fait en fait le lien entre l'individu et la communauté. L'individu devenant une personne permet au groupe de devenir une communauté. Une communauté, c'est beaucoup plus qu'un groupe. Une personne, c'est beaucoup plus qu'un individu. Mais ça évolue, justement, dynamiquement, dans cette tension. Nul d'entre nous n'est capable de se définir, selon Balthazar, s'il ne prend position dans chacune de ces polarités. Et elles sont mouvantes. Elles sont mouvantes, puisque avec l'âge, tout cela évolue. Quand on est un petit enfant, on est de manière assez indifférenciée. Bon, c'est bien tout de suite si on est un garçon ou une fille, mais on ne connaît pas encore le caractère de cet enfant. Bon, cet enfant, que va-t-il devenir? Voilà, les parents sont curieux. C'est un bébé, un peu comme ça, qui n'a pas encore d'autonomie, qui n'a pas encore déployé ses capacités, mais justement, au fur et à mesure qu'il gagne par l'éducation, qu'il gagne en personnalité, en singularité, il devient un adulte qui va prendre un rôle dans la société, dans des communautés, peut-être même un rôle de leadership. Il va prendre ses responsabilités, il va être responsable des autres. Et puis, bien sûr, avec l'âge, les responsabilités vont diminuer. Notre mode de vie va un peu changer, on sera davantage dépendant, on sera moins dans l'interaction, etc. Donc voilà, ça évolue. Alors autant dire tout de suite qu'il y a plusieurs communautés, il n'y a pas qu'une communauté, nous appartenons à un grand nombre de communautés qui s'imbriquent l'une dans l'autre. C'est toute une philosophie sociale qu'on pourrait construire à partir de là. Il y a la famille, bien sûr, il y a l'école, il y a un parti politique, il y a un pays, il y a une église, une congrégation religieuse, un groupe de prière, un club de sport, il y a toutes sortes de groupes qui ont chaque fois un but différent. Si vous regardez d'ailleurs déjà un peu de l'autre côté de la feuille, dans l'espèce de pyramide là, que j'ai construite pour illustrer ce que Madame Streuil va dire, le but est au-dessus. Le but est au-dessus. Chaque communauté a un but. Il y a 36 buts différents. On peut s'associer de différentes manières. Dans une communauté religieuse, par exemple, puisque je parle aussi pour... ils ont en vue d'une certaine formation pour des prêtres ou bien des religieux, le triangle avec les quatre dimensions anthropologiques peuvent être représentés. Un groupe de religieux, par exemple, il doit s'organiser au niveau de l'espace physique. Il doit avoir une maison, il doit avoir un lieu pour faire la cuisine, pour manger, etc. Mais il y a aussi des liens affectifs, des amitiés, il y a aussi des valeurs intellectuelles, une formation, une émulation. Il y a aussi, bien sûr, une dimension spirituelle. Donc les quatre dimensions anthropologiques sont présentes dans toute communauté. Donc ce triangle-là ne sert pas seulement pour l'individu, mais aussi pour la communauté. Et il faut voir si une communauté est équilibrée en respectant un peu tous les niveaux. Mais certains ordres, évidemment, accentuent plus un niveau qu'un autre. Par exemple, pour être trappiste, il faut une bonne santé. Il faut un corps solide. Parce qu'être trappiste, C'est peut-être pas donné à tout le monde. Donc cette dimension est importante. Les autres aussi sans doute, mais je dirais pour être frère de la charité dans un hôpital psychiatrique, il faut avoir un psychisme bien solide, bien équilibré. Hein? Voilà, c'est une vocation peut-être spéciale, et on a vraiment la vocation que si aussi on a la capacité de la remplir. Si on est dans un ordre enseignant, professeur par exemple, ben, il y a une dimension intellectuelle. Voilà, partout évidemment il y a une dimension spirituelle, mais qui doit être gérée, je dirais, en fonction du but qu'on se donne. Les communautés ne se donnent pas toutes le même but. Point 2, de l'individu à la personne, c'est-à-dire de la particularité par l'universalité vers la singularité. Alors ça, ce sont des mots un peu plus abstraits qui viennent de Hegel. Hegel utilise ces trois catégories, Besonderheit, Allgemeinheit et Einzelheit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je crois que l'idée est très puissante, elle n'est pas si compliquée que ça. Un jeune, un enfant, un bébé, bon, ben, c'est d'abord un individu très particulier, très égocentré, très tourné sur lui-même. Il est particulier. Et petit à petit, par l'éducation, on l'ouvre à l'universel. On lui fait communier à des valeurs morales, à des valeurs affectives, on le fait communier à des valeurs intellectuelles, on lui fait apprendre ce qu'est l'art, etc., la science. Et donc, le petit particulier, hein, qui est un peu autocentré, là, ben, ses parents, ses professeurs, etc., la société l'aide à s'ouvrir sur l'universel. Et je dirais, plus ce particulier se nourrit de cet universel et en fait quelque chose pour lui-même, avec sa particularité d'ailleurs, mais en mettant sa particularité un peu à la périphérie, en mettant l'universel davantage au centre de ses intérêts, il devient un singulier. Le singulier, dans la pensée de Hegel, donc c'est un individu particulier. Je mets toujours individu et particulier ensemble, personne et singulier ensemble. Hein. Donc voilà, l'évolution, le développement, c'est un individu particulier qui s'ouvre à l'universel. Alors l'universel, c'est tout ce qu'il y a de beau et tout ce qu'il y a de vrai et de bon dans le monde. Et je dirais, plus il adhère à cela, plus il communie, plus il est capable de comprendre les choses, plus il est capable de faire le bien, plus il est capable de goûter et de produire le beau, plus il se singularise. Alors se singularise pas comme quelqu'un qui va, hein, c'est parfois le sens du mot en français, se singulariser comme quelqu'un de très bizarre, qui s'isole et tout ça. Non, au contraire, il devient quelqu'un de très, très typé, hein, quelqu'un de très multiple. Et on le reconnaît entre mille, il est différent des autres. Mais tout ça demande du temps. Si par exemple, moi je suis le professeur lambda qui me trouve tout à coup devant une classe de 30 élèves que j'ai jamais vus, bon, moi je suis un professeur parmi d'autres pour eux, un particulier, et tous ces élèves pour moi sont des numéros. Hein. Je ne les connais pas. Mais en travaillant, en s'intéressant à un tiers qui est l'universel, eh bien chacun va finir par prendre un nom. Les élèves vont commencer par connaître le professeur, sa personnalité, etc. Et au bout du compte, grâce à cet universel qu'on travaille ensemble, nous cessons d'être des particuliers, nous sommes les uns pour les autres des singuliers, des personnes. Et au bout de l'année, il peut y avoir une très bonne ambiance, la classe n'est plus un groupe amorphe, un troupeau, hein, mais c'est devenu, voilà, une classe qui a une personnalité, parce que chaque individu est devenu une personnalité un peu plus, hein, à l'intérieur de cette classe par le travail qui s'est effectué, et un travail bien, qui est au fond une confrontation avec l'universel. On a fait des maths, on a fait de la géographie, on a fait de l'esthétique, on a fait du sport, on a fait toute une série de choses qui nous mettent en communion avec la société, l'univers. On sort de son égoïsme particulariste pour à des valeurs qui sont universelles, et on devient ainsi un singulier, une personne. Alors je crois que voilà, ce sont des idées hégéliennes, UPS, un universel particulier singulier, qui me semble vraiment intéressante pour étudier philosophiquement la personne. Cette définition de la personne avec les trois polarités, j'ai surtout développé la troisième, c'est très bien, mais Balthazar dit: ça, c'est de la philosophie. Il est capable d'en faire, et de la très bonne, hein? Mais lui, il veut faire de la théologie. Alors il dit, cette personnalité, c'est pas suffisant. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, l'homme et la femme, l'être humain, sont un mystère indéfinissable. Pourquoi ? Parce que nous sommes à l'image de Dieu, qui est un mystère. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes nous-mêmes mystère. Il y a un mystère en nous. Quel est ce mystère ? Eh bien, la définition avec les trois polarités nous aide à avancer, mais philosophiquement, peut-on vraiment connaître le mystère d'une personne, même très singulière, hein ? Pour Balthazar, ce qui définit une personne, c'est sa mission. La mission qu'il reçoit de Dieu. Ici, il parle en théologien. Hein? Et bien sûr, la personne qui nous a révélé cela, c'est le Christ. Quelle est la définition du Christ, hein? Comment peut-on expliquer qui est le Christ, si ce n'est en disant ce qu'il a fait pour nous, sa mission, hein? Voilà, il s'est incarné, le Père l'a envoyé, il a rempli sa mission, il est mort, il est ressuscité, c'est en voyant combien il a été jusqu'au bout de la mission qu'il a reçue qu'il se définit parfaitement comme ce qu'il est. Eh bien, dit Balthazar, nous également, nous avons une mission. Sendung, une mission, un envoi. Chaque être humain, théologiquement, eh bien, est appelé par Dieu à remplir une mission unique, une mission singulière sur cette terre que lui seul peut remplir et pas un autre. Cette très belle mission, il ne faut pas l'imaginer de manière céleste, de manière spirituelle, hein ? C'est une mission très concrète, qui est évidemment spirituelle, mais qui passe par toutes les dimensions de la personne. Et lorsque je découvre, entre guillemets, ma mission, eh ben, je dois prendre des moyens concrets pour l'exécuter. Hein ? Des moyens concrets, des moyens physiques, psychiques, raisonnables, etc., pour remplir cette mission spirituelle. Spirituelle. Donc je dois mobiliser toutes mes dimensions humaines pour rencontrer cette mission et l'accomplir, et c'est ça la plénitude de ma personnalité, non seulement philosophique, mais théologique. Parce que, au fond, Dieu nous appelle, alors il n'y a pas ici de prédéterminisme, hein, Balthazar est très souple dans sa manière de parler de la mission et de la vocation, mais voilà, il dit chacun, et je crois que spirituellement c'est très fort de penser cela de soi-même, hein, quelle est ma mission, et comment est-ce que je la remplis, et comment est-ce que Dieu m'éclaire sur ma mission, me donne la force de la remplir, et comment est-ce que cette mission s'incorpore avec toutes les autres missions des autres, hein? Elle n'est pas en concurrence avec personne. Si je trouve que ma mission, c'est de faire exactement ce que l'autre fait, et qu'il le fait mieux, et que j'entre en jalousie avec lui, il y en a un des deux qui n'est pas à sa place, hein? Et sans doute que c'est celui qui est jaloux, hein? Parce que j'ai pas besoin d'être jaloux, j'ai ma mission, c'est la seule qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit à gauche ou à droite, j'ai ma mission, j'ai ma place dans le monde et dans la communion des saints. Voilà, ça c'est le concept aussi théologique qu'il déploie très fort. Dans la communion des saints, chacun a sa place en lien avec tous les autres. Et cette mission, comme je vous disais, doit prendre des moyens bien concrets. Par exemple, moi, ben, je m'imagine que je dois être jésuite. Bon, ben, j'entre dans la compagnie. Très bien. Avec l'idée que j'ai une mission, bon, mais on va me dire, bon, ta mission, c'est la mission des jésuites. Ah non, moi j'entre chez les jésuites, mais j'ai une mission tout à fait céleste, spirituelle, qui n'a rien à voir avec ce que vous allez me raconter, parce que moi j'ai une illumination, etc. Bon, probablement que je ne suis pas à ma place chez les jésuites, hein. Donc il faut entrer, concrétiser sa vocation dans un groupe qui existe déjà sans doute, hein. Pas moyen d'inventer tout. Et ma mission, c'est aussi de trouver que ma mission correspond à la mission d'un groupe. Que ce groupe m'aide à remplir ma mission. Alors ce groupe, il va peut-être m'empêcher de faire certaines choses, mais il va aussi m'aider à faire d'autres choses. Hein. Et c'est dans cet équilibre entre, disons, ce que l'ordre religieux, par exemple, m'aide à faire et ce qui m'empêche de faire par rapport à ce que je ressens, que je vais découvrir que je suis à ma place ou non. Voilà, donc c'est insérer sa propre mission dans la mission d'un groupe, et il y en a beaucoup, on peut les choisir si on veut. Et ce groupe va profiter, je dirais, de ma mission, mais moi je vais profiter de la mission du groupe. Et le groupe va me personnaliser. Hein, et moi je vais donner aussi un visage à ce groupe. Hein. Donc voilà, il y a une interaction entre la mission d'une personne et la mission d'un groupe à l'intérieur de la communion des saints. Alors, pour prendre une image, pour terminer ce premier paragraphe, ce premier A, le groupe, c'est comme un tas de pierres. Hein. Les individus sont comme des pierres et le groupe, c'est comme un tas de pierres. Et petit à petit, eh bien, nous sommes les pierres vivantes qui nous mettons progressivement ensemble et qui commençons à construire un édifice. Et cet édifice, avec les mêmes pierres d'ailleurs, hein, finit par être un bâtiment merveilleux qui a une raison d'être, qui a une beauté, etc. Ça, c'est le groupe qui est devenu une communauté. Et chaque pierre est devenue, eh bien, une pierre d'angle, ou bien une pierre de façade, ou bien une pierre de seuil, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est plus une pierre quelconque, c'est une pierre qui a une utilité dans l'ensemble. Voilà, c'est une comparaison d'ailleurs que saint Paul utilise aussi, hein, et d'autres. Le corps a différents membres, hein, l'édifice a différentes parties. Maintenant, je vais vous parler de l'obéissance dans une communauté, puisque justement l'individu et la communauté hein, sont liés l'un à l'autre par l'obéissance. Donc vous avez vu là que dans la triple polarité, j'ai mis en parallèle pauvreté, chasteté, obéissance. Bon, ce n'est pas strict, hein, on peut aussi voir des parallèles différents, mais c'est sûr que les rapports individu-communauté sont commandés par une certaine obéissance, mais, qui n'est pas nécessairement quelque chose de pénible ou qui s'impose, mais c'est un accord de volonté. Qu'est-ce que c'est l'obéissance ? Pour moi, l'obéissance, si je devais la définir, c'est une alliance. C'est une alliance entre, je reprends l'exemple des jésuites, c'est une alliance entre des hommes qui veulent faire une mission, qui croient qu'ils ont cette mission dans ce groupe, et qui s'organisent. Et évidemment, ça marche beaucoup mieux lorsque on s'organise de manière un peu raisonnable avec des gens qui, progressivement, voient vers quel but on peut aller et comment les exécuter. Et avec le temps et la maturité, chacun prend ses responsabilités et joue son rôle à l'intérieur de ce groupe. Alors, comment est-ce qu'on apprend à commander ? Eh bien, en obéissant. En obéissant. Hein? En ayant de bons supérieurs. Hein? Et en comprenant bien ce qu'ils font et en ayant envie de collaborer avec lui, eh bien, progressivement, on apprend soi-même à commander. Et c'est d'ailleurs lorsqu'on commande qu'on obéit le plus. En tout cas, ça, c'est mon expérience. Hein? Quand on est en position de responsabilité, c'est à ce moment-là qu'on obéit le plus. À qui et à quoi ? Pas nécessairement aux caprices des autres, mais d'abord à la règle, à l'esprit du groupe, hein, au but qu'on s'est donné ensemble, et puis à la réalité. Parce que je dis, c'est formidable, je vais envoyer celui-là en mission à gauche, mais il est malade. Bon, alors j'obéis à la réalité, je vais trouver un autre plan, quoi, hein. Et puis voilà, donc on obéit à la règle, on obéit au but de la communauté, on obéit à la réalité, c'est-à-dire qu'il y a du tiers. Entre le supérieur et les religieux, il y a du tiers. On n'est pas dans une opposition. Hein. Lui et moi, on n'est pas d'accord. Hein. Alors, on est au stade de l'enfance freudien, hein, que Freud appelle le moment du non. Quoi, hein. Dès que quelqu'un me dit qu'il faut faire ça, je dis non. Ben oui, ben ça c'est un très bel exemple que j'ai régressé. J'ai régressé par rapport au triangle édipien de l'Alliance. De l'alliance, où il y a un tiers avec lequel je ne suis pas en jalousie, mais en alliance. Alors pour saint Ignace, il y a trois types d'obéissance qui vont de la plus élémentaire à la meilleure. Ces trois types d'obéissance, est-ce que je les ai mis sur la feuille ? Oui, il y a l'obéissance d'exécution, de volonté et de jugement. Tout ça se trouve dans les écrits de saint Ignace, hein, qu'on peut consulter ici, dans les constitutions, dans les lettres et tout ça. L'obéissance d'exécution. On me dit de faire ça, j'ai pas du tout envie de le faire, hein, mais je le fais parce que je dois le faire, hein, et ça m'embête beaucoup, et je râle à fond, hein, mais je le fais. Ah ben, je suis un bon religieux, puisque regardez, je fais tout ce qu'on me dit. Hein. Mais avec une gueule jusque par terre, et puis en me plaignant de tout le monde, etc. Non, ça c'est pas la bonne obéissance. Mais enfin, ça commence peut-être comme ça, et parfois c'est comme ça qu'on apprend à obéir, ou bien il y a des fois qu'on ne peut pas faire autrement, quoi. Hein. On n'est pas à ce moment-là suffisamment bien disposé, suffisamment à l'écoute pour voir mieux. Une obéissance de volonté, ça c'est déjà mieux, c'est lorsque je veux vraiment faire ce que le supérieur me demande, hein, je veux remplir la mission qu'on me donne, mais je ne comprends pas très bien pourquoi c'est moi qui dois le faire, ni pourquoi on doit faire ce truc. Hein. Bon, mais voilà, je ne suis pas dans la pure obéissance d'exécution, parce que je ne râle pas, hein, je suis, voilà, j'ai soumis ma volonté, je le fais, mais je me dis, à quoi ça sert cette affaire, hein, bon, je fais plaisir au supérieur en qui je fais confiance, mais je ne comprends pas très bien. Hein. Bon, ça c'est déjà mieux. Je n'obéis pas comme un robot. Hein, je ne mets pas seulement mon corps en route, je mets aussi ma volonté en route. Mais la meilleure obéissance, eh bien, c'est l'obéissance de jugement. Ça veut dire quand, avec le supérieur, ben, je vois que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Ben, c'est évident, c'est ça qu'il faut faire. Donc, à la limite, même s'il ne me l'avait pas demandé, je l'aurais trouvé moi-même, quoi. Ah ben, c'est très bien, ça. Donc, l'obéissance de jugement, c'est lorsque, eh bien, on correspond avec son corps, je dirais, son psychisme, sa volonté, mais même son intelligence et son esprit, bien sûr. Hein. On est d'accord, c'est évidemment la meilleure solution, c'est la meilleure chose que je puisse faire maintenant, c'est la meilleure chose que le supérieur puisse me demander. Alors peut-être que c'est idéal, hein, mais quand même, on se rend compte que dans beaucoup de cas, eh bien, c'est en discutant et en se connaissant bien et en cherchant ensemble qu'on arrive, je ne dis pas toujours très facilement, mais qu'on arrive quand même régulièrement à ce type d'obéissance, hein, où on est content de le faire et où le supérieur n'a pas à faire pression, ni l'autre à dire que ça lui coûte énormément, etc. Il le fait, voilà, nous le faisons ensemble, nous sommes en alliance et nous le faisons. Voilà, alors à la limite c'est celle qui coûte le moins à un certain niveau, et pourtant c'est la meilleure, hein. C'est la meilleure. Est-ce que je suis plus obéissant lorsque je suis uniquement dans l'exécution? Est-ce que je deviens un saint? Est-ce que je gagne des mérites lorsque je suis uniquement dans l'exécution? Eh bien à mon avis, non. Hein, je dirais la qualité de l'acte ne se mesure pas à l'effort qu'on fait. On fait peut-être beaucoup d'efforts à tort et à travers, et on ferait mieux de réfléchir un peu plus et de prier un peu plus pour avancer dans le type d'obéissance que l'on veut exercer. Les trois moments de la représentation inclus dans l'obéissance. Alors ça, c'est un peu une chose que saint Ignace a bien mise au point et qui, je trouve, vaut la peine d'être exposée. Lorsque le supérieur me demande quelque chose et que je trouve que c'est pas ce qu'il faut faire, enfin que bon, il y a quelque chose qui cloche, quoi, hein, et je lui dis non. Je lui dis non, non, franchement, là on est occupé à se gourer, c'est pas la bonne direction, etc. Tu désobéis. C'est moi le supérieur, tu désobéis, hein, je te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Eh bien, saint Ignace dit non, 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 il ne désobéit pas. Ils sont ensemble dans un processus de discernement. Hein? Le supérieur croit avoir vu quelque chose et le sujet croit avoir vu une autre. Qui a le Saint-Esprit? Ben, pourquoi est-ce que ça devrait être le supérieur? Hein? Non, le Saint-Esprit est quand même un peu au-dessus des deux. Hein? Des deux. Alors peut-être que le supérieur est un tout petit peu plus proche du Saint-Esprit, mais il y a quand même quelques kilomètres, donc je dirais, vu du ciel, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence. Le Saint-Esprit, voilà, il est pour les deux. Et peut-être qu'il se trompe, ou peut-être qu'il n'a pas réfléchi à tout, ou bien peut-être que le sujet, dans la situation concrète où il est, voit des éléments que l'autre ne voit pas. Et donc, lorsqu'on dit « non, non, je trouve qu'il faudrait plutôt peut-être faire ceci, enfin, est-ce que tu as pensé à ça ?» Bon. On fait une représentation, comme dit saint Ignace. On fait une représentation. On représente ses arguments et on rediscute. Et pour saint Ignace, eh bien, on peut faire, le sujet peut faire jusqu'à trois représentations, sans désobéir. Il est dans l'obéissance. Ils sont dans le discernement ensemble. Mais évidemment, pourquoi ne pas que ça aille à l'infini, hein, parce que, finalement, il faut quand même passer à l'action. Il dit, Après la troisième représentation, eh bien, le supérieur tranche. Et sa parole est la parole à laquelle il faut obéir. Alors évidemment, ce n'est pas à la suite l'un de l'autre. Hein. Ce n'est pas dans le bureau en disant première représentation, oui, non, deuxième représentation, oui, non, etc. Non, évidemment, hein, ça ce serait comique. Hein, mais il faut laisser passer un jour ou deux ou trois, ou un mois, même ça dépend du type de décision. Et il faut venir avec des bons arguments, discuter, etc. Et mon expérience, eh bien, c'est que ça marche. Hein. C'est que ça marche. Parfois, voilà, hein, les deux sont occupés à chercher un truc parce qu'il faut aller par là. Alors lui veut aller par là et l'autre par là. Et puis finalement, en allant par là, eh ben, on a découvert un chemin beaucoup meilleur, hein, pour les deux et pour l'ensemble. L'un évolue avec l'autre. Hein. On s'aide mutuellement à trouver la vraie volonté de Dieu. Voilà la question des représentations. L'obéissance aveugle, alors Saint Ignace en parle de l'obéissance aveugle, on dit toujours que les jésuites obéissent à l'aveugle, enfin, ou en tout cas, comme perinde à cadaver, comme un cadavre. Hein. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de cadavres qui bougent encore dans la compagnie, parce que Saint Ignace lui-même dit ceci, hein, après avoir dit, oui, écoutez, le pape Saint Léon l'a dit, hein, Saint Paul l'a dit, Saint Bernard l'a dit, Saint Benoît l'a dit, Cassien l'ont tous dit, hein, il faut obéir, perinde à cadaver. Ceci ne fait pas oublier que si vous êtes en quelque chose d'un avis différent du supérieur et qu'après avoir prié, vous jugiez bon sous le regard de Dieu de le lui représenter, vous ne puissiez le faire. Donc vous voyez que le cadavre a encore un petit peu de, hein, de jeu dans la discussion. Mais si dans ce domaine vous désirez que votre démarche ne puisse être soupçonnée d'amour propre et de jugement personnel, vous devez demeurer également indifférent, etc. Enfin, voilà, il indique que ce n'est pas un bras de fer, hein, et que ce n'est pas par en faisant des reproches et en se plaignant et en se comparant aux autres, en disant oui mais lui il peut faire ça et moi pas, etc. Ça c'est pas des bons arguments. Hein. Donc il faut pas faire de plaintes ni de pressions persuasives, mais il y a une vraie représentation qui est un discernement en commun. Voilà. Sur ce, je laisse la parole à Dominique.
Voilà, on va poursuivre sur le même thème avec un regard de la psychologie. Lors du cours précédent, on avait déjà évoqué le travail de différenciation dans les familles, particulièrement à l'adolescence, et on a vu que ce travail est également lié à la possibilité de se différencier sexuellement. Hein, on avait pris un cas clinique pour ça. Mais que surtout, ce travail de différenciation est indispensable pour sortir des rapports de force et d'emprise et construire des lois de la relation. Alors, Bernard nous a expliqué pour l'obéissance comment fonctionnait la loi de la relation pour les jésuites. Mais en systémique, c'est Murray Bowen, un psychiatre américain, qui s'est le plus penché sur ce problème de la différenciation. Il a fait beaucoup de recherches cliniques et il a montré que dans les systèmes indifférenciés, il y avait beaucoup plus de pathologies psychiatriques individuelles. Et que donc, plus un groupe permet la différenciation, moins les individus tombent malades. Pour autant que l'appartenance au groupe soit préservée et que l'identité du groupe n'en soit pas affaiblie. Hein, donc il y aura toujours, voilà, se différencier, mais pas au détriment de l'identité du groupe, sinon on fragilise son identité aussi. Donc on va parler de la santé et des maladies des groupes, des communautés religieuses en particulier. On va parler du groupe en tant que système vivant, organisation vivante, et on va voir comment les théories systémiques, et Bowen en particulier, peuvent nous aider à comprendre et analyser le fonctionnement d'un groupe, sa santé ou sa maladie. Alors, le fonctionnement d'un groupe interfère bien sûr avec la santé des individus. Il y a des phénomènes de résonance. Hein, un individu peut fragiliser un groupe, s'il est en position de supérieur particulièrement. Mais le fonctionnement d'un groupe peut aussi fragiliser la santé de certains individus. Et tout le monde n'est pas à égalité par rapport à ça. Il y a des phénomènes de résonance entre notre propre histoire et le fonctionnement du groupe. Alors, un groupe est bien plus que la somme des individus qui le constituent. C'est un système relationnel vivant qui a une identité propre. Un groupe a une naissance, une croissance, une adolescence, un temps de maturité adulte, un temps de vieillissement et souvent une mort, quand on n'a plus besoin de lui. Un groupe a un corps de matière, hein, Bernard a un petit peu parlé de ce corps de matière du groupe, c'est les bâtiments, mais c'est aussi dans une communauté la façon dont on mange, la façon dont les horaires de sommeil, les horaires de travail, enfin voilà, la place du corps, comment est-ce qu'on vit son corps dans les relations communautaires, le silence, enfin voilà. Donc un groupe a un corps, un fonctionnement psychique, relationnel, une intelligence, une manière de réfléchir ensemble et un esprit, une âme. Un groupe peut tomber malade ou être en bonne santé. Un groupe est vivant et ses transformations se font toujours en traversant des crises et des angoisses qui sont toujours présentes dans les processus de mutation. Il n'y a pas de changement de fonctionnement dans un groupe s'il n'y a pas une crise. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, les crises sont des moments de deuil et de renaissance possibles autrement. Mais pour traverser une crise, on a besoin de créativité et de ressources extérieures au groupe. Donc, les crises sont nécessaires pour que le système reste vivant. Un système qui ne bouge plus, qui se rigidifie et voilà, perd de la vie. Mais bon, les crises ne sont pas forcément douloureuses. Hein. Par exemple, quand quelqu'un de nouveau arrive dans un groupe, la naissance d'un enfant, mais aussi l'arrivée d'un novice dans une communauté, ou un départ, eh bien c'est une crise. Alors pourquoi c'est une crise? Parce qu'à ce moment-là, tout le système relationnel doit travailler. L'arrivée de quelqu'un de nouveau oblige à une créativité nouvelle de toutes les relations. On doit expliquer comment on fonctionne, on doit investir la nouvelle personne, on doit expliquer les relations, etc. Donc c'est un travail qui est très important à faire. Si on ne le fait pas, la personne qui entre aura l'impression d'être un pion, interchangeable. Donc pour se sentir une personne, il faut sentir que tout le groupe travaille pour vous accueillir. Et qu'on parle encore aussi de ceux qui sont partis, etc. Dans un groupe, on ne peut pas ne pas communiquer. Il y a le langage digital, la parole, et le langage analogique. Par exemple, si je suis absente à une réunion, je communique quelque chose. Si je me tais à une réunion, je communique quelque chose. Si j'obéis en tirant la tête, je communique quelque chose. Enfin, il y avait une supérieure qui me disait, quand j'ai commencé ma charge de supérieure, à table, seule la supérieure ne pouvait pas choisir sa place. Les autres pouvaient choisir. Et puis j'ai remarqué que quand tout le monde entrait, eh bien, tout le monde prenait les places le plus loin possible de moi et que c'était juste les dernières qui venaient s'asseoir à côté de moi. Donc ce n'était pas très agréable pour moi. Donc la première décision que j'ai prise comme supérieure, c'est de dire que la supérieure pouvait aussi changer sa place. Donc voilà, un exemple de communication analogique et aussi l'importance de définir des lois de la relation à ce niveau-là. Donc dans une communauté, la manière dont le supérieur va exercer sa charge aura beaucoup d'influence sur la santé du groupe. Mais par exemple, s'il y a un maître des novices ou une maîtresse des novices dans la communauté, la relation qu'ils auront entre eux va être très importante aussi. Hein? Comment est-ce qu'on va définir cette relation pour chaque membre du groupe ? Comment est-ce qu'on va dire de quoi ils vont se parler? Si je parle au maître de novice, est-ce qu'il va en parler au supérieur? Toutes ces lois-là doivent être transparentes et claires. Je dois savoir si je parle au supérieur, est-ce qu'il va parler à telle personne? Pourquoi? Est-ce qu'il va parler à son conseil? Pourquoi? Comment est définie la confidentialité, etc. De quoi je vais parler au supérieur? De quoi je vais parler à la maîtresse des novices? Ça ne sera pas la même chose. Hein? Ça, tout ça fait partie de la différenciation et c'est très très important. Alors, la communauté a aussi le pouvoir d'empêcher un supérieur d'exercer son autorité correctement. Pour comprendre ça, il est important de faire la distinction entre pouvoir et autorité. Dans un groupe, chaque personne a du pouvoir. Chaque individu a le choix de construire des relations d'alliance positive avec son supérieur et sa communauté, ou de briser des alliances et faire des alliances contre, des coalitions, des triangulations. C'est-à-dire qu'on peut se mettre à deux ou à trois et à commencer à dire que le supérieur il dysfonctionne, etc. Ça, c'est des alliances contre. Hein. Ou avec des personnes extérieures, contre la communauté ou contre le supérieur. Les alliances contre sont des signes d'indifférenciation dans un groupe. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'assumer une parole personnelle et d'interpeller la bonne personne. Peut-être parce que le groupe ne le permet pas. Donc ça, c'est la question du pouvoir. Par contre, l'autorité est une tâche, une mission particulière qui est confiée à une personne pour que le groupe puisse accomplir au mieux sa mission. C'est une tâche difficile, avec beaucoup de pièges, une tâche qui peut rendre malade soi-même et les autres, parce que c'est une tâche où il y a énormément de solitude. Hein, la fonction de supérieur est difficile à assumer parce que voilà, elle comporte une grande dimension de solitude, donc il faut avoir des aides extérieures, des lieux où on peut échanger avec d'autres. Voilà, alors, comment analyser le fonctionnement d'un groupe? Vous avez des petits dessins là sur votre feuille de route. Hein. Il y a d'abord le triangle hein, avec le but, qu'on va appeler aussi le mythe du groupe. L'autre point de son organisation et son histoire. Bon. Et puis là au milieu, vous avez un point pour l'ambiance du groupe. Alors, le mythe du groupe, j'ai déjà utilisé ce mot-là, hein, donc c'est Robert Neuburger qui parle du mythe du groupe, comme l'ensemble des croyances, des représentations et des valeurs qui unissent le groupe. Pour une communauté religieuse, c'est aussi le charisme. Hein. Mais ce n'est pas que le charisme, puisque j'ai mis le mot « but hein, », c'est aussi la mission que se donne le groupe. Alors, le mythe d'un groupe peut se transformer au cours de l'histoire du groupe. Et donc la mémoire de cette histoire et des transformations du mythe est importante à garder. Ce week-end, j'animais une session pour des supérieurs avec Noël Haussmann, et il y a une dominicaine qui a témoigné du fait que le charisme des dominicaines n'avait pas changé, c'est toujours communiquer la parole de Dieu, mais qu'au cours de l'histoire des dominicaines, la façon dont il est exercé concrètement a énormément changé. Hein? Donc le cœur du mythe du groupe, son identité, son charisme peut rester permanent, mais la manière dont ça va s'incarner dans la vie, dans des missions particulières, peut évoluer dans le temps. Alors, prenons comme exemple la naissance d'une communauté nouvelle. On va dire qu'un fondateur, entouré de quelques amis, fait une expérience spirituelle, par exemple, il sent un appel au niveau spirituel et il a aussi un désir au niveau spirituel et au niveau psychologique fort. Donc, il y a cette rencontre entre désir, appel et la réalité d'un besoin dans le monde. Dans les premiers temps de la construction du nouveau projet, le fondateur doit être un visionnaire. Il doit avoir un pouvoir fort et un désir fort qui mobilise le groupe d'une façon indifférenciée. Sinon, il n'y a pas de groupe qui naît. C'est le temps de la naissance du groupe. À ce moment-là, ce qui va jouer beaucoup, c'est ce qu'un autre auteur que Bowen, Étienne de Soie, qui est belge, qui a fondé une institution pour enfants autistes, il parle de l'importance de l'ambiance dans un groupe et du cycle de l'ambiance. Alors là, c'est le petit schéma que vous avez avec les flèches. Dans le cycle de l'ambiance, il y a deux pôles. Il y a le pôle fusionnel, de relations proches, chaleureuses, et le pôle de la distance, de la solitude, de l'ambiance froide. Hein. Et puis, normalement, dans tout groupe, il y a une respiration entre ces deux pôles. Il y a des moments plus chaleureux, plus fusionnels, mais si on reste tout le temps collé, on étouffe. Donc on a aussi besoin de prendre distance, de prier dans sa cellule, enfin voilà, d'être capable de supporter la solitude, etc. Mais il y a des groupes plus chauds que d'autres. Hein, donc, en général, les communautés nouvelles sont des groupes au départ assez chauds. Hein, assez chaleureuse, qui correspond à quelque chose, je pense, dans notre époque que les jeunes recherchaient. Et donc, Voilà, il y a d'autres congrégations qui seront choisies parce que justement, il y a plus de distance entre les personnes, ça permet plus de solitude. Voilà, alors, c'est pas que l'un est bon, l'autre mauvais. Ce qui est important, c'est que ça puisse respirer. Hein, mais je dirais que ça fait partie de ce qui va attirer ou pas attirer des jeunes. Une fois que le groupe est constitué, il va se définir par une série de caractères qu'on peut observer. Hein, il va s'incarner dans des rituels, dans une liturgie particulière, des chants particuliers, des gestes propres à ce groupe-là. Et puis, il va aussi s'incarner dans un fonctionnement relationnel particulier, une manière de vivre les vœux particulière, etc. Mais dans ce fonctionnement relationnel, il y a une chose qui va être très importante à regarder, parce que je vous ai dit qu'au début de la fondation, c'est normal que le fondateur et le supérieur aient un pouvoir fort. Mais si, à un moment donné, le fondateur ou le supérieur se trouve entre Dieu et l'individu, là, ça ne va plus aller, ça va être la catastrophe. C'est-à-dire s'il y a un phénomène d'idéalisation extrême du fondateur, où on prend sa parole pour la parole de Dieu, il n'y a plus de discernement et c'est la catastrophe. Hein, comme le disait Bernard au niveau des jésuites, mais je pense que ça doit être comme ça dans tous les groupes religieux et dans l'Église, hein, parce que les fidèles peuvent aussi croire que la parole du prêtre est parole de Dieu. S'il n'y a plus de différenciation à ce niveau-là, c'est la catastrophe. Donc s'il y a un supérieur et puis quelqu'un de la communauté, Dieu est toujours en position de tiers. Hein, la personne qui parle au supérieur a une relation personnelle avec Dieu, supérieur aussi, et c'est par rapport à l'Évangile et par rapport à ce tiers de Dieu que les décisions et que les discussions vont avoir lieu. Hein. Donc, très important de penser à ça au niveau de la différenciation. Quand l'identité du groupe est suffisamment solide, il devient capable de se différencier de son fondateur. Des élections sont possibles et on peut nommer un nouveau supérieur. Mais pour un fondateur, c'est souvent très difficile de laisser sa place, justement parce qu'il a été idéalisé, parce qu'il s'est identifié à sa fonction, et donc là, il peut y avoir des dérives narcissiques. Hein, donc, voilà. Parfois, c'est le groupe qui supplie un fondateur de rester encore un peu. Hein, ou à une abbesse qui est là depuis, je sais pas moi, 20 ans ou 15 ans, de rester encore parce qu'on a tellement l'habitude de fonctionner avec elle que, ah non, pas du changement, parce qu'on va effectivement devoir alors faire un travail relationnel important. Hein, donc c'est pas toujours le problème, c'est le problème de la manière dont le groupe fonctionne avec l'autorité qui est en jeu. Hein, c'est pas seulement une responsabilité d'une personne. Alors, un autre élément important à regarder, c'est la manière dont le groupe définit ses frontières avec l'extérieur. Là, vous avez des petits ronds. Hein. Au début de la fondation d'une communauté nouvelle, il y a des frontières assez rigides à construire avec le monde extérieur, parce qu'il faut marquer la différence par rapport aux autres congrégations, par rapport aux autres groupes, par rapport au monde extérieur. Et donc, c'est normal dans ce temps de la jeunesse du groupe que les frontières soient assez rigides. Bon, par contre, il y a d'autres groupes qui ont des frontières trop poreuses. Hein. Donc, s'il y a plus de relations avec des personnes extérieures qu'à l'intérieur du groupe, l'identité du groupe va s'affaiblir. Hein. Si on ne mange plus jamais ensemble en communauté et qu'on va chacun manger chez des amis, eh bien, l'identité communautaire va s'appauvrir. Et donc, l'appartenance au groupe ne sera plus suffisamment forte pour soutenir le psychisme des personnes au moment où elles traversent des crises. Bon. Normalement, les frontières doivent être perméables, c'est-à-dire qu'il faut des frontières, mais il faut la possibilité de faire appel à l'extérieur et que des tiers puissent venir de l'extérieur pour aider quand il y a des crises, etc. Alors, le groupe très jeune, hein, dans son enfance, qui a besoin de construire son identité en se différenciant très fort du monde extérieur, voire en s'opposant à lui, On peut comprendre, par exemple, que les communautés nouvelles ont eu besoin de reprendre l'habit religieux comme une façon de marquer la différence, justement, et de marquer cette identité différente d'une façon très forte pour le regard de l'autre. Le problème, c'est que l'habit religieux, par contre, montre une indifférenciation entre les personnes du groupe. Hein, si tout le monde est habillé pareil, alors, c'est pas au niveau de l'habit qu'on va se différencier ou montrer qui on est, mais alors comment on va penser cette différenciation à l'intérieur du groupe ? Voilà, donc cette identité du groupe va soutenir, quand tout se passe bien, l'identité des personnes. Et comme disait Bernard, normalement, l'appartenance à un groupe qui fonctionne bien permet de plus en plus à l'individu de devenir une personne. Quand ça dérape, parfois les personnes, si elles ne se construisent pas suffisamment, prennent l'identité du groupe comme un manteau, comme un substitut de leur identité personnelle, et deviennent donc dépendantes de cette identité du groupe. Le problème pour ces personnalités plus fragiles, c'est que quand il y a un scandale qui arrive à votre communauté, quand on apprend qu'un fondateur a eu des comportements répréhensibles, etc., ces personnes-là vont s'écrouler complètement parce qu'elles avaient besoin de cette identité du groupe pour tenir debout. Hein, et donc, ça fait énormément de dégâts psychiques. Et voilà, il y a parfois des départs ou des effondrements, des bascules parfois dans la maladie mentale, etc. Bon, maintenant, ce qu'un groupe doit toujours faire, quand il devient fragile dans son identité, et dans l'histoire d'un groupe, il y a toujours des moments comme ça, c'est ce que Neuburger appelle une greffe mythique. Alors, la greffe mythique, c'est réenrichir le mythe, le but, le charisme, la mission commune, avec des nouvelles énergies. Bon, par exemple, une communauté qui vieillit et qui, par exemple, communauté de religieuses enseignantes, et puis toutes les religieuses sont pensionnées, donc le mythe, c'est plus l'enseignement. Hein. Mais s'il n'y a pas un travail qui se fait en disant, mais tiens, l'identité, le but de notre communauté maintenant que ce n'est plus l'enseignement, ça va être quoi ? Hein ? Comment on va enrichir cette période de notre vie où il n'y a plus de jeunes qui entrent ? Voilà, mais il y a moyen de vivre la vieillesse d'un groupe et même si on sait qu'on va mourir, avec une richesse spirituelle énorme. Mais il faut faire ce travail de réinjecter quelque chose de cette force de désir commun finalement, hein, au niveau spirituel. Qu'est-ce qui peut fragiliser le mythe ? Des frontières trop poreuses aussi, hein, je l'ai dit, des liens individuels avec l'extérieur. Mais des frontières trop poreuses aussi, c'est trop peu de discernement des vocations. Si j'accueille tout le monde, ben l'identité du groupe s'effondre parce qu'il n'y a pas de discernement pour savoir mais est-ce que tu es vraiment fait pour vivre avec nous ? Est-ce que tu es capable de vivre notre mission ? Hein, donc, à la longue, ça fragilise le groupe même s'il y a beaucoup d'entrées. L'absence de travail au niveau du mythe, on l'a dit, l'absence de greffe mythique au cours de l'histoire peut fragiliser un groupe. Et alors, il y a quelque chose de particulier aussi auquel il faut être très attentif, c'est ce que je vais appeler la perversion de l'idéal. C'est-à-dire, il y a quelque chose à évaluer aussi régulièrement, c'est est-ce qu'il y a vraiment un rapport d'incarnation qui est juste entre le charisme, le mythe tel qu'il est énoncé dans la parole et nos actes. Est-ce que nous vivons comme nous parlons ? Hein ? Est-ce qu'il y a une cohérence entre notre parole et nos actes ? Et ça doit être évalué par toute la communauté. Hein ? Alors, comment est-ce qu'on vit notre mythe de la pauvreté ? D'abord, comment on le dit ? Parce que le vœu de pauvreté ne se raconte pas de la même façon dans chaque communauté. Comment on le dit ? Comment on le raconte ? Hein ? Comment chacun le perçoit ? Et concrètement, comment la communauté le vit et comment moi, personnellement, je le vis. Hein, donc, tout ce travail autour du lien entre l'idéal et le fonctionnement doit être fait communautairement, mais aussi individuellement, régulièrement. comment observer le degré de différenciation dans un groupe? Quand la différenciation est faible dans un groupe, la référence à une loi commune n'est pas en place et la relation autorité-obéissance n'est pas juste. Il y a de la manipulation, des rapports de force, plutôt qu'une obéissance dans une alliance avec l'autorité pour le bien de la mission du groupe. Certains individus sont clivés. Extérieurement, ils portent le manteau de l'identité commune et ils semblent agir extérieurement selon les valeurs, mais intérieurement, ils ne développent pas une personnalité propre. Ils peuvent être dans un débordement des pulsions et des comportements déviants qui restent cachés. Il peut y avoir de la perversion et de la double vie. Ça, c'est une des hypothèses avec ce manteau de l'identité commune. Mais il y a une autre pathologie qui existe aussi, c'est que certains individus deviennent complètement dépendants par rapport à l'autorité qui est idéalisée et ils démissionnent de leur pensée propre. Parfois, ils développent aussi d'autres dépendances, des troubles alimentaires, des dépendances à l'alcool, en cachette, etc. Mais donc, il y a comme une régression à l'identité collective et à l'idéal collectif, et il n'y a pas un développement des désirs propres et de l'idéal du moi personnel. Dans un groupe indifférencié, il y a des alliances contre quelqu'un, des triangulations. Les individus n'arrivent pas à assumer une parole personnelle. Ils cherchent des appuis chez d'autres personnes à l'intérieur ou à l'extérieur, contre l'autorité ou contre certains membres de la communauté. Il y a des boucs émissaires, etc. À l'inverse, quand un groupe est bien différencié, la loi transcende le groupe et l'autorité s'y soumet aussi, évidemment. Le respect de la loi et des règles par tous signifie pour chacun le respect des valeurs du groupe et le respect de la place de chaque individu. Obéir n'est pas perçu comme infantilisant. Obéir est perçu comme une responsabilisation de chacun dans sa mission, au service de la mission du groupe. Les conflits sont exprimés et gérés par l'autorité, sans débordement émotionnel, sans passage à l'acte. Et si nécessaire, l'autorité fait appel à des médiations extérieures. Il n'y a pas de triangulation. Chaque individu arrive à parler en son nom propre, à la bonne personne, dans le bon lieu, et au bon moment. Voilà, ça c'est très important. Les critiques sont acceptées, on peut se remettre en question, et la justesse des relations est réfléchie par chacun. Donc je rappelle ce que j'ai dit au premier cours, une relation juste ne peut pas être définie uniquement par rapport à ce que moi je pense, ça ne peut pas être défini uniquement entre mon supérieur et moi. Une relation juste est juste si elle est juste par rapport à chacune de mes relations. Si le supérieur s'entend très bien avec tel frère, ben c'est juste pour eux deux. Mais s'il a une relation tellement proche avec ce frère que les autres sont jaloux ou que les autres se sentent délaissés, eh ben, peut-être qu'il faut réfléchir plus largement à comment mettre une justesse pour que chacun se sente bien. Voilà. Quand l'identité du groupe n'est pas menacée par la différenciation des individus et que la souplesse des frontières permet des interpellations qui viennent de l'extérieur. Donc un groupe bien différencié permet à ses membres de vivre leur appartenance comme un renforcement identitaire et un support de développement de leur personnalité propre dans un processus d'unification d'eux-mêmes. Alors, pour terminer, je vais prendre rapidement un petit exemple qui est longuement développé dans le livre de Masha Shmakov, qui est une psychanalyste, qui a un chapitre qu'elle appelle la neutralisation de la fonction de l'idéal. Et je vais prendre en très résumé, parce qu'on va bientôt terminer, ce qu'elle nous dit. Donc elle prend des exemples cliniques qu'elle construit à partir de situations qu'elle a rencontrées, mais donc elle va nous donner deux exemples de cette neutralisation de la fonction de l'idéal. Alors la neutralisation de la fonction de l'idéal, c'est le moment où il n'y a plus cette distance entre l'idéal et la réalité concrète, hein, où on ne peut plus voir l'idéal comme un horizon vers lequel on tend, hein, une marche qu'on fait, que le groupe fait ensemble, où on finit, voilà, il n'y a plus cette distance. Hein. Donc il y a la manière dont je fonctionne, dont nous fonctionnons ensemble, et il y a là où on voudrait arriver. Mais c'est très important qu'il y ait cet écart. hein, qu'on ne se croit pas arriver tout de suite. Hein, et qu'on, d'abord, c'est cet écart qui permet cette dynamique du désir, et puis aussi qui permet une évaluation régulière. Alors, le premier exemple de régression d'un homme de l'idéal du moi au moi idéal, bon, vous oubliez un peu les mots compliqués, à la toute-puissance narcissique, c'est ce qui se passe quand on se prend soi-même comme idéal. Hein, quand on est idéalisé, qu'on devient un héros, une star, un fondateur de communauté où il y a plein de vocations, un professeur très admiré, on risque vraiment de se croire quelqu'un d'exceptionnel et de développer un ego surdimensionné. Hein. Donc c'est une forme d'idolâtrie de soi, on peut dire, souvent inconsciente et non perçue par les autres, parce que les autres dans la communauté ne sont plus des garde-fous, parce qu'ils vous idéalisent. Hein, et donc il y a quelque chose où la communauté n'est plus tiers par rapport au supérieur et renforce la pathologie du fondateur ou du supérieur. Et donc il n'y a plus de lucidité sur les fautes et les manques personnels, et la toute puissance imaginaire le sujet se croit vraiment un saint ou je ne sais pas, quelqu'un d'idéal en tout cas. Ça le coupe de lui-même et il se trouve piégé dans ce problème d'image et dans les attentes qui pèsent sur lui, bien qu'il les ait lui-même suscitées. Et donc, il est aussi piégé par le groupe. Et le groupe reste alors dans une position infantile par rapport à lui. Alors, autre exemple de régression et de démission de l'idéal du moi, hein, elle prend l'exemple d'une femme qui est d'une générosité sans borne par rapport à son mari, ses enfants, sa paroisse, son travail, le mouvement religieux auquel elle appartient. Elle fait tout bien, toutes les valeurs chrétiennes, tout, enfin bon, voilà, elle s'épuise là-dedans, mais elle a pris l'idéal collectif comme si c'était son idéal personnel. Hein, donc elle a sacrifié, elle s'est laissée coloniser par l'idéal collectif, elle ne sait plus qui elle est, elle ne sait plus si elle a des désirs personnels, voilà, donc elle va s'épuiser dans un burn-out à un moment donné, et elle n'aura pas fait grandir en elle quelque chose de l'ordre d'un désir personnel. Donc l'idéal collectif n'a pas suscité ce désir personnel qui permet cette croissance de soi. Alors vous imaginez que ces deux types de personnalités ensemble dans une communauté, ça peut dévier très fort. Hein? Voilà, je vais terminer là-dessus.